retrouver donc Catherine Berchatsky, évidemment, pour les informations.
Un adolescent de 15 ans, sauvagement agressé à Angoulême, jeudi après-midi. Le jeune garçon a eu l'artère fémorale sectionnée après avoir été attaqué à coups de marteau, de batte, de machette ou de couteau. C'est ce que révèlent nos confrères de la Charente Libre. Un règlement de compte interquartier, vraisemblablement entre la Grand-Fond et Soyaux. L'après-midi, les jeunes avaient été aperçus à bord de deux voitures exhibant des battes et des marteaux. Ça s'est passé donc jeudi vers 16h45 dans le quartier de Bel Air, la Grand-Fond à Angoulême. Le jeune garçon a survécu grâce à l'intervention d'un autre adolescent qui a comprimé l'hémorragie en attendant l'arrivée des secours. L'adolescent a été transporté à l'hôpital de Girac où il a été opéré. Son pronostic vital n'est plus engagé. Une agression qui intervient alors qu'une agression mortelle au couteau, à de nombreuses agressions au couteau sont recensées en France ces derniers mois. C'est même devenu le mode opératoire le plus fréquent lors d'homicides. C'est ce que montre une récente étude confidentielle de la direction de police judiciaire que vous avez pu consulter, Aurélien Tirard.
Entre 2019 et 2021, 30% des meurtres ont été commis au couteau. Les jeunes sont de plus en plus impliqués dans ces crimes par arme blanche. Le profil type d'un agresseur au couteau, c'est un homme de 33 ans, déjà connu de la justice, issu d'un milieu plutôt défavorisé. Un quart des victimes ont moins de 26 ans. Si le couteau est l'arme employée dans tous les attentats meurtriers les plus récents en France, l'arme blanche est aujourd'hui largement utilisée en dehors de tout contexte terroriste pour agresser, tuer et menacer, comme par exemple en mars à Chenôve, en Côte d'Or, où une proviseure a été menacée dans un lycée par un élève. Le couteau n'est plus l'arme des marginaux, les policiers le constatent lors des contrôles, monsieur tout le monde en porte sur lui pour se protéger. Presque aucun département n'est épargné par ce phénomène. Certains départements ruraux enregistrent même les plus forts taux d'homicides par arme blanche, plus que dans certaines zones urbaines. C'est le cas des Deux-Sèvres, de la Mayenne, des Ardennes, de la Haute-Savoie ou encore de la Haute-Vienne.
Rappelons que cet après-midi, à 15h30, se déroule la marche blanche organisée en hommage au jeune Matisse, cet adolescent de 15 ans tué, lui aussi donc à l'arme blanche à Châteauroux il y a une semaine. Les proches de l'adolescent, ses amis, mais aussi tous ceux qui ont été touchés par ce drame se retrouveront place Lafayette, d'où partira le cortège.
Et hier, c'est un Charentais de 25 ans qui a été condamné pour avoir tué une jeune femme de 72 coups de couteau. C'était en avril 2020.
Oui, les jurés de la cour d'assises d'Angoulême l'ont condamné à 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 ans de sûreté. Ils sont allés au-delà des 25 ans réclamés par l'avocat général qui, dans son réquisitoire, a décrit une bombe humaine. Déficient intellectuel, Stephen Bafou a été incapable d'expliquer son geste à l'audience. Lui qui avait rencontré sa victime dans un IME, Institut Médico-Éducatif, que tous deux avaient fréquenté dans leur enfance. Le jeune homme, qu'on ne peut pas juger comme on jugerait quelqu'un d'autre selon son avocat, a maintenant 10 jours pour faire appel. Les pompiers de La Rochelle sont intervenus cette nuit à Lagorre pour un feu de pavillon. Ils ont été appelés vers 1h45. À leur arrivée, la maison était totalement embrasée et les occupants étaient sortis par eux-mêmes. Ils ont utilisé deux lances, les pompiers, pour stopper le risque de propagation au pavillon voisin. On ignore pour l'instant l'origine du sinistre qui n'a pas fait de blessés.
Et puis des agents hospitaliers ont bivouaqué une nuit dans le hall de l'hôpital de Rochefort.
Oui, une action symbolique du syndicat Sud Santé Sociaux pour dénoncer des situations de collègues en souffrance et défendre l'hôpital public. Manque de personnel, suppression de postes, augmentation des charges de travail, pression quotidienne des hiérarchies, voilà pour le tableau noir dépeint par les représentants des personnels. Une tente et un barnum faisant office de stand d'information ont été dressés. Quatre agents hospitaliers ont donc dormi sur place, parmi eux Caroline Avril, infirmière à La Rochelle et co-secrétaire du syndicat Sud Santé Sociaux en Charente-Maritime.
L'hôpital de Béligon est particulièrement menacé par les réorganisations territoriales qui sont en cours, entre le projet nouvel hôpital de La Rochelle, la future fusion entre La Rochelle et Rochefort. On sait qu'il y a des réorganisations de soins, des suppressions de services doublons qui vont avoir lieu et qui vont fortement impacter l'offre de soins publics sur l'ONIS. L'hôpital public est plus qu'en souffrance, l'hôpital public est... et à terre, et il y a urgence à agir. Et la direction a beau nous envoyer la police pour essayer de nous faire évacuer, ils ne nous feront pas taire.
La direction a souhaité en effet faire évacuer le hall par la police jeudi soir, mais la préfecture a décidé, elle, de calmer le jeu. Les occupants avaient de toute façon prévu de lever le camp hier en milieu de matinée. Principal remède aux tensions hospitalières, le recrutement de personnel. La directrice de l'hôpital de Rochefort, Gaëlle de Surgy, a bien conscience des difficultés et du poids qui pèse sur les personnels.
Je ne dis pas que tout va bien, je dis qu'on est mobilisé sur un objectif de revenir à un fonctionnement normal et du coup de recruter des praticiens autant que faire se peut. Sur l'exemple de la maternité, on a deux recrutements de praticiens qui vont arriver sur le mois de mai. Ce sont des praticiens qui sont à temps partagé, c'est-à-dire que c'est des recrutements communs sur La Rochelle et Rochefort avec des temps identifiés sur les deux établissements. Mais l'objectif, c'est des temps identifiés pour chaque établissement pour qu'on puisse se renforcer et du coup garantir une continuité du fonctionnement qui justement n'impacte plus sur nos organisations.
Dossier signé Éric Le Bihan à retrouver en image sur notre site internet francebleu.fr ou encore via l'application Ici.
Oui, c'est pas mieux. D'ailleurs, à l'hôpital de Royan, il y a une fermeture d'une douzaine de lits. Ça fait la une d'ailleurs de l'hebdomadaire Le Littoral. Il en sera question à 8h40. En sport à présent, en voile, le Rété Antoine Cornic est de retour à La Rochelle.
Le skipper qui a dû abandonner la Transat CIC Lorient New York après une avarie est rentré dans le bassin des chalutiers vers 14h15 hier après-midi. Son bateau avait subi une avarie sur la grand voile. Antoine Cornic, déjà qualifié pour le Vendée Globe de novembre, a eu sur la route tout le temps de digérer cet abandon. Gérald Baris était sur le pont pour l'accueillir.
J'étais extrêmement frustré en mer parce que j'étais vraiment bien. On était dans une phase en plus qui me correspondait assez, donc assez virulente, forte, et qui correspond bien au bateau parce que j'ai toujours dit que le bateau c'était un coffre, donc j'étais vraiment bien à bord. Et voilà, c'est une pièce mécanique à la con qui casse, c'est un axe qui est plus petit que mon doigt. Et de là, avec l'équipe, on a discuté, on a pris la décision de rentrer pour deux choses. Un, la qualif est faite, donc j'ai pas de problème de qualification moi, pour le Vendée. De deux, on ne veut pas prendre de risques. Quand j'ai évacué ça, il m'a fallu peut-être un petit peu 24 heures pour évacuer quand même. Je suis reparti avec mon cahier de notes, une liste de travail pour l'équipe. Vous venez d'arriver sur le ponton, les voiliers sont déjà là pour récupérer la voile que j'ai réussi à laisser à bord du bateau quand même, puisque ce n'était pas une mince affaire. Et voilà, ça va repartir tout de suite à l'atelier. On aura la voile réparée la semaine prochaine et on va repartir tout de suite à l'entraînement pour le Vendée.
Et des plongeurs vont maintenant inspecter la coque de Human Immobilier car le skipper pense avoir heurté un objet non identifié en mer. Vers le 15 juillet, le bateau partira en cale sèche. Vous avez toutes les précisions sur francebleu.fr. Côté course, en IMOCA, pas de changement ce matin par rapport à hier. Le Rochelais Yannick Bestaven est 6e, la Rochefortaise Violette d'Orange 20e et en classe 40, la Rochelaise Amélie Grassi, 6e. Et puis en basket, le Stade Rochelais perd son dernier match à domicile face à Nantes, 75-76 hier soir. Pas grave, les Rochelais, leaders du championnat, sont de toute façon qualifiés pour les quarts de finale des playoffs qui commencent le 16 mai.